Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers fidèles de Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud toulousain. Vous reconnaissez certainement cette musique. Et si nous l'entendons maintenant, c'est parce que nous sommes en studio avec François Lagarrigue, une personnalité originale qui arrive de Paris et qui s'est installée dans la région à Montesquieu-Volvestre. Il a également un métier original, en effet, il est copiste et il travaille en particulier pour les orchestres de Disneyland Paris. François, bonjour et bienvenue dans notre studio.
Bonjour Bruno.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton travail, être copiste ?
Alors la copie, en fait, ça remonte à l'époque des chants grégoriens où on écrivait tout ce qui était musique à la main, sur le papier. Il n'y a pas très longtemps, ça s'étudiait encore aux Beaux-Arts. Il y avait une classe de copie musicale aux Beaux-Arts où on apprenait à utiliser la plume qui dessinait les cinq lignes d'un coup, où on dessinait les notes à la main, etc. Maintenant, comme beaucoup de choses, ça se fait par ordinateur. La copie musicale, là, il faut savoir que la musique se transmettait traditionnellement par voie orale. Et on a commencé à utiliser les partitions et donc la copie à partir du moment où on a commencé à jouer à plusieurs instruments, puisqu'il fallait que chaque instrumentiste ait sa partition, et surtout quand on a commencé à écrire la musique pour plusieurs instruments, chaque instrument jouant une partie différente, il fallait que chaque instrumentiste ait sa partition.
Et cela se situe à quelle époque à peu près ?
C'est l'époque baroque, donc on voit ça dans tous les matins du monde. À partir du moment où il y avait plusieurs instruments qui devaient jouer ensemble, effectivement, on a eu besoin de la partition. Voilà, donc chaque instrumentiste avait sa propre partition et quand il a commencé à y avoir un chef d'orchestre, le chef d'orchestre avait aussi la partition d'orchestre sur laquelle on retrouve tous les instruments.
Voici justement un extrait du film avec un passage de Marin Marais où l'on entend bien l'arrivée des différents instruments.
Et aujourd'hui, c'est à partir de cette partition d'orchestre que je travaille et que les copistes travaillent en général pour réaliser une partition individuelle pour chaque instrumentiste. Par exemple, si on prend un orchestre symphonique, on part de, en général, la flûte, l'instrument en haut, jusqu'à, en bas, la contrebasse, en passant bien sûr par tous les bois, flûte, clarinette, hautbois, basson, etc., les cuivres, les trompettes, les trombones, le tuba, toutes les percussions, bien sûr les pianos, etc., et les cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse, etc. Voilà. Aujourd'hui, un arrangeur, quelqu'un qui écrit la musique, va prendre une mélodie, va l'harmoniser, c'est-à-dire qu'il va écrire des accords sur cette mélodie, et à partir de ça, il va développer d'autres mélodies, des contrechants, et donc il va écrire petit à petit pour chaque pupitre les bois dans lesquels il y a donc par exemple les flûtes, hautbois, clarinettes, etc., les pupitres de cuivre, trompettes, trombones, corps, tuba, etc., les percussions. Il faut savoir que les percussions, donc il y a bien entendu tout ce qu'on connaît comme la caisse claire, les cymbales, etc., mais on retrouve dans les percussions aussi les xylophones, vibraphones. Ensuite, on peut avoir les instruments solistes comme le piano, on peut avoir une guitare comme instrument soliste, on peut avoir ensuite après les chœurs ou les chanteurs solistes, et on termine par les cordes. On parle du quatuor à cordes qui en réalité est composé de 5 instruments. Il y a 2 violons, donc premier violon, second violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. On parle de quatuor parce qu'en fait, la contrebasse a été intégrée après dans la musique, et souvent elle double le violoncelle à l'octave inférieure, c'est-à-dire elle sonne une octave plus bas que le violoncelle.
Ce qui signifie que tu connais tous les instruments de musique dans leur capacité, leur puissance et leur tonalité.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que alors bien entendu, non, je ne maîtrise pas l'instrument, je ne sais pas jouer de tous les instruments, mais je sais comment s'écrivent tous les instruments et comment ils doivent s'écrire. Et effectivement, je connais aussi ce que l'on appelle donc leur tessiture, c'est-à-dire la note la plus haute qu'ils peuvent jouer et la note la plus basse qu'ils peuvent jouer. Et ainsi donc, écrire les instruments de façon à ce que pour l'instrumentiste, ce soit quelque chose de facile. Il faut savoir que dans un orchestre symphonique, les instrumentistes, en dehors des solistes, ont des parties qui sont, si j'ose dire, simples à jouer. Si on prend un concerto pour clarinette, c'est la clarinette qui va avoir la partie la plus difficile à jouer parce que c'est lui qui est mis en avant. Et voilà. Après, les autres instruments sont là pour le soutenir. Et pour pouvoir le soutenir, il faut qu'ils aient quelque chose qui ne soit pas trop complexe à jouer.
Une grande partie de ton travail, c'est de faire des arrangements. Donc de permettre à chaque instrument de s'exprimer correctement tout en laissant la place aux autres pour que ce soit harmonieux. C'est bien ça.
Tout à fait. Donc moi, j'ai étudié l'arrangement. Alors, pour le travail que je fais pour Disney, il y a d'autres personnes qui font ça. Moi, au niveau du travail que je fais pour Disney, ce n'est vraiment que la copie musicale. Je ne fais que recopier. Mais par contre, ayant étudié tous les mécanismes de la musique, l'arrangement, l'orchestration, etc., effectivement, mon travail consiste à faire que quand il y a plusieurs instruments qui doivent jouer ensemble, on puisse les entendre tous de façon claire, sans que ce soit surchargé.
C'est un peu comme ici en radio, où l'on se laisse parler les uns les autres.
Tout à fait, tout à fait. C'est une sorte de dialogue. Et là où c'est très important, encore plus important, c'est quand il y a un chanteur. Un instrument de musique véhicule une mélodie. Un chanteur, il véhicule une mélodie plus un texte. Donc si on surcharge un arrangement qui accompagne un chanteur, ça peut vite devenir difficilement audible. Comme si deux personnes parlaient en même temps de choses différentes, etc. On a vu dans l'opéra des chants où il y a deux chanteurs qui chantent deux mélodies différentes, avec un texte légèrement différent, etc. Je pense à Carmen, je pense à beaucoup d'autres choses. Et on les entend bien parce que c'est bien écrit, parce que ça marche bien ensemble. Mais ça, il faut faire attention quand on écrit ce genre de choses.
Et tu ne travailles pas uniquement pour les musiques des orchestres de Disney, tu le fais également pour d'autres musiciens ou tous les groupes qui te le demandent.
Oui, tout à fait, oui. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est vrai que je suis aussi pianiste à la base, mais je n'ai jamais vraiment été intéressé pour travailler mon piano 8 à 10 heures par jour comme le ferait un pianiste concertiste. Par contre, écrire de la musique pour pour partager. Parce que pour moi, l'important dans la musique, c'est le partage, c'est de jouer à plusieurs. Et donc, effectivement, moi, j'ai voulu étudier cette façon d'écrire la musique de façon à ce que les gens puissent jouer ensemble. Du débutant, de celui vraiment qui est capable de jouer qu'une note, il puisse jouer avec tout le monde.
Aujourd'hui, tu n'écris plus des partitions sur du papier uniquement. Tu dois certainement t'appuyer sur des outils numériques.
Comme pour la copie, l'écriture d'arrangement se fait maintenant sur ordinateur. On a des outils vraiment très très pratiques aujourd'hui. On a la possibilité d'entendre comment va sonner un violon parce qu'on a des banques de sons avec des sons de violon qui sont vraiment très réalistes. Et donc aujourd'hui, on peut écrire un arrangement musical complet sur l'ordinateur. D'ailleurs, dans les musiques de films, c'est beaucoup utilisé pour faire une maquette. On appelle ça un mock-up en anglais, mais c'est une maquette qu'on va donc synchroniser avec l'image. De cette maquette, on va tirer ce qu'on appelle un clic, c'est-à-dire c'est une sorte de métronome avec un tempo qui va être très modulant.
On peut traduire ça par variable.
Qui va beaucoup varier. Il faut savoir que les tempos en musique de film, c'est pas noir égale 125, ça peut être noir égale 124,492, c'est vraiment très précis. Et donc ce clic, on va le diffuser dans un casque que porte le chef d'orchestre. Le jour de l'enregistrement avec l'orchestre symphonique, il aura ce clic en plus bien sûr de la partition où sera indiqué les valeur métronomique, et donc il va diriger la musique de façon à ce qu'elle colle vraiment précisément à l'image.
Donc ce clic, c'est une indication pour le chef d'orchestre qui doit accélérer ou au contraire ralentir la vitesse de la musique écrite sur la partition pour qu'elle coïncide avec l'action sur l'image.
Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que c'est quelque chose avant qui se faisait avec la projection de l'image. C'est-à-dire que si on remonte longtemps dans le passé, je pense à il y a une cinquantaine d'années, le chef d'orchestre avait face à lui la diffusion du film et il dirigeait l'orchestre en suivant le film. Il faut aussi savoir que à l'origine, en remontant très loin, le cinéma, c'était le cinéma muet. Et on avait dans les salles de cinéma un pianiste qui regardait le film et accompagnait le film en jouant du piano. Donc on est parti de là. On a donc fait, on a commencé à écrire des arrangements un peu plus symphoniques, etc. au niveau de la musique. On a diffusé au chef d'orchestre le film qui dirigeait l'orchestre en suivant le film. Et puis, grâce aux outils numériques d'aujourd'hui, on arrive à faire ça avec le clic dont je parlais tout à l'heure.
Et c'est ça qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur.
Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, tout se fait par ordinateur. Et donc, aujourd'hui, on fait de la musique assistée par ordinateur.
On serait donc capable de créer l'ambiance d'un orchestre symphonique seul dans sa chambre ?
Aujourd'hui, on en a la possibilité. L'évolution des ordinateurs fait qu'ils sont suffisamment puissants pour pouvoir faire tourner on appelle ça des samples, c'est-à-dire des samples, c'est des banques de sons. Et donc, on peut avoir l'orchestre symphonique complet avec, comme je le disais tout à l'heure, de la première flûte jusqu'à la contrebasse.
En plus, ces outils permettent aussi de travailler de la musique ensemble, mais à distance cette fois-ci. C'est ce qui a pu se faire pendant la période de confinement.
Alors là, il n'y a pas d'arrangement, l'arrangement est tout fait, mais c'est une autre facette de la MAO, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait de créer de la musique une personne seule, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu effectivement pendant le confinement, un guitariste va pouvoir s'enregistrer en audio et faire donc transmettre son fichier audio à un bassiste, par exemple, qui lui va prendre le morceau, va ajouter sa partie de basse. On aura la guitare et la basse qui vont être transmises à un batteur, etc., etc. Et grâce au système de réseau qui sont aussi de plus en plus puissants, on peut même maintenant aujourd'hui arriver à le faire en direct. C'est-à-dire que chaque musicien est devant son ordinateur avec un logiciel de MAO. Il joue devant son ordinateur. Les autres musiciens jouent aussi leur partie et on se retrouve avec ce qu'on a pu voir effectivement pendant le confinement avec des musiciens qui jouent, qui sont chacun chez eux mais qui arrivent quand même à jouer ensemble.
Mais pour être précis, même si on utilise l'informatique comme support, on doit être avant tout musicien.
Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier que la musique, c'est pas l'ordinateur qui l'a fait, c'est la personne qui est derrière l'ordinateur. Et la MAO, ça peut commencer tout simplement par un élève qui veut apprendre un instrument de musique. Je pense par exemple à un guitariste ou un pianiste, et plutôt que de travailler au métronome, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais plutôt que de travailler un métronome, ce qui des fois n'est pas très agréable, eh ben, on peut utiliser une batterie. Par exemple, si je travaille un morceau de jazz, c'est quand même plus agréable pour moi de travailler avec une batterie qui joue du jazz que de jouer avec un simple clic de métronome, quoi.
Alors, pour faire de la MAO, il faut être informaticien ou musicien ?
Aujourd'hui, on peut être musicien. Il y a quelques années, il fallait être un petit peu des deux. Aujourd'hui, on peut n'être que musicien. Effectivement, après, il faut avoir quelques connaissances. C'est comme tout logiciel, je pense. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous montre comment ça fonctionne, c'est plus facile que d'étudier dans les livres. Mais grâce à Internet, grâce à de nombreux ouvrages, il est très facile aujourd'hui de se mettre à la MAO pour un coût qui n'est pas forcément très élevé non plus. Ça, c'est aussi une évolution de la MAO. Comme tout, je pense aussi par exemple à la photographie, ça devient accessible vraiment. Et ça, c'est une très bonne chose.
Et comment une personne qui nous écoute maintenant peut-elle se lancer dans la MAO ?
Il faut faire des recherches sur Internet pour trouver, parce qu'il y a bien évidemment il y a des logiciels semi-professionnels et professionnels qui coûtent très cher, mais il existe aussi des solutions qui sont gratuites. Et pour commencer, c'est bien, il faut un ordinateur, il faut une interface audio, c'est-à-dire c'est un système qui va se placer entre son instrument et l'ordinateur. La chose la plus importante, c'est l'instrument. Et si je peux me permettre un conseil, la plus grosse somme d'argent à mettre, elle est à mettre dans l'instrument d'abord. Comme le disait, je ne sais plus qui exactement, il n'y a pas très longtemps, j'avais entendu ça, il est plus facile de jouer de la guitare tous les jours si on a une guitare qui nous plaît et qu'on a une guitare de qualité. C'est, je le dis encore une fois, c'est quelque chose qui aujourd'hui est accessible à quasiment tout le monde.
Enfin, si je suis musicien ou que je suis membre d'un groupe et que je veux faire appel à tes conseils, où dois-je m'adresser ?
Alors, à partir de la rentrée, je vais intégrer l'école de musique de la RIS à Montesquieu et à Rieux. Et nous allons mettre en place, avec le directeur de l'école, Lucas, des ateliers. Donc, atelier pour jouer en groupe, ça peut être pour jouer en duo, et donc des ateliers qui se feront dans le style jazz, où on apprendra effectivement à improviser, dans des ateliers de variété, où on apprendra par exemple à accompagner un chanteur ou une chanteuse, et ça peut être aussi bien sûr un atelier classique, par exemple un violon ou une flûte qui veulent jouer ensemble. On va mettre ça en place. Moi, mon travail, si j'ose dire, va consister à ce que chaque élève puisse jouer en groupe, puisse jouer dans le groupe. En plus de ça, on va accueillir les groupes existants à qui je pourrais donner éventuellement des conseils pour peut-être améliorer un petit peu leurs arrangements ou voilà. Et on va aussi mettre en place un cours pour les pianistes guitaristes qui veulent apprendre à accompagner un chanteur. Et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'accompagner, le soutenir, c'est-à-dire ne pas trop jouer pendant qu'il chante, ne pas parler en même temps qu'il parle, si je peux faire le rapprochement. Et donc, par contre, quand il y a des silences, bah, rajouter des choses, faire un petit peu d'improvisation, de façon à ce que on réalise quelque chose qui soit joli, quoi, qui soit agréable à entendre.
François Lagarrigue, un grand merci pour nous avoir présenté les activités de copiste et d'arrangeur et de nous avoir fait partager ta passion de la musique. Merci d'être passé dans nos studios et nous te disons à très bientôt.
Merci Bruno et au revoir, à bientôt.
Au revoir.